Le capitaine Notre Galère, nommé le chevalier de Laugeron Maulevrier, avait tous les sentiments jésuites. Il nous haïssait souverainement, et il ne manquait pas, lorsque nous étions à ramer, le corps tout nu, sans chemise comme c'était l'ordinaire, d'appeler le comite et de lui dire « Va rafraîchir le dos des huguenots d'une salade de coups de corde ». Mais toujours, quelque autre que nous les recevait. Ce capitaine était fort magnifique et faisait grosses dépenses pour sa table, car 500 livres que le roi donne par mois à chaque capitaine de galère pour leur table ne lui suffisaient pas pour la moitié de la dépense de la sienne. Les capitaines ont ordinairement à leur office ou chambre de provision, qui est pratiquée dans le fond de cale de la galère, un mousse ou gardien de cette chambre. C'est ordinairement un forçat qui a cet office. C'est un emploi fort favorable pour celui qui peut l'avoir, car on est alors exempt de la rame et de toute autre fatigue, et l'on fait bonne chère de la cuisine du capitaine. Or, il arriva que le mousse d'office de Monsieur de Langeron lui friponna 50 ou 60 livres de café que le maître d'hôtel trouva qui manquait à l'office. Il le déclara au capitaine qui, sans autre forme de procès, ordonna sur le champ qu'on donna 50 coups de bastonnade à ce pauvre fripon de mousse et qu'on le mit au banc criminel, ce qui fut exécuté fort ponctuellement, après quoi le capitaine ordonna aux commis de lui chercher un mousse fidèle parmi les forçats de la galère. Le commis se récria sur ce mot de fidèle, disant qu'il lui était impossible de l'assurer de la fidélité d'aucun de ses malfaiteurs, mais qu'il savait un galérien déjà âgé et peu capable de la rame, de la fidélité duquel il pouvait lui répondre. « Mais, ajouta-t-il, je sais que vous ne le voudrez pas. »« Pourquoi non ?» dit le capitaine, « s'il est tel que tu le dis. »« C'est, » dit le comique, « qu'il est huguenot. » Le capitaine, fronçant les sourcils, lui dit « N'en as-tu pas d'autre à me proposer ?»« Non, » dit le comique, « du moins dont je puisse vous répondre. » « Eh bien, dit le capitaine, je l'éprouverai. Fais-le venir en ma présence. » Ce qui fut fait. C'était un nommé Bansilon, vénérable vieillard, respectable par sa candeur et sa probité qui était empreinte sur sa physionomie. Le capitaine lui demanda s'il voulait bien le servir pour son mousse d'office. L'air et la prudence avec laquelle il lui répondit charmèrent le capitaine, qui le fit d'abord installer par son maître d'hôtel dans la chambre d'office. Le capitaine fut bientôt si content de son mousse qu'il n'aimait personne autant que lui, jusque-là qu'il lui confiait la bourse de sa dépense. Et lorsque l'argent était fini, Bansilon lui portait le mémoire de la dépense faite par le proviseur et le maître d'hôtel, lesquels lui rendaient compte, et le capitaine avait pris une telle confiance en lui qu'il déchirait ses mémoires en sa présence sans les lire et les jeter à la mer. Cette grande confiance du capitaine à l'égard de Bansilon et l'économie qu'exerçait celui-ci au profit de son maître lui firent bientôt des jaloux et des ennemis mortels. Le capitaine avait deux maîtres d'hôtel, un proviseur et un chef de cuisine, qui mangeaient à la seconde table. Ces messieurs voulaient souvent se régaler de vin de champagne et d'autres délicatesses confiées à la garde de Bansilon, lequel les leur refusait souvent, lui étant défendu d'y toucher que pour la table du capitaine. Sur cela, ces messieurs conçurent une telle haine contre lui qu'ils résolurent de le perdre. Pour cela, ils projetèrent un jour que lorsque le capitaine donnerait à manger et qu'il y aurait presse à l'office, il détournerait quelques pièces d'argenterie, dont le capitaine était bien pourvu, pour faire accuser Bansilon de ce vol. La chose conclue entre quatre, l'un des maîtres d'hôtel, soit par bienveillance pour Bansilon ou pour débusquer son camarade, fut en secret communiquer ce complot au dit Bansilon, lui disant qu'il leur soutiendrait la chose si besoin en était. Bansilon, informé de la haine de ces messieurs contre lui, résolut de n'attendre pas l'orage qui tôt ou tard le perdrait, et conclut de retourner plutôt ramer toute sa vie dans un banc que de rester ainsi exposé. Dans cette pensée, ses comptes à la main, il fut trouvé un matin le capitaine à son lit et le pria instamment de le décharger du fardeau de garder sa chambre d'office, protestant que son âge, qui affaiblissait sa mémoire et sa vue, ne lui permettait plus de profiter de ses bontés. Le capitaine, fort surpris, lui dit qu'il fallait qu'il y eût quelque autre raison qui le portât à lui faire cette demande, et qu'il voulait la savoir sur l'heure, sous peine de son indignation. Bansilon, ne pouvant plus s'en défendre, lui avoua le fait et lui dit que Moria, le second maître d'hôtel, lui avait découvert le complot. « Qu'on m'appelle ces messieurs, » dit le capitaine tout à l'heure. Ce qui étant fait, il les menaça de les faire jeter à la mer sur le champ s'ils n'avouaient pas la vérité. Ils l'avouèrent en effet en demandant mille fois pardon. « Eh bien, messieurs, » dit-il, « je ne vous veux faire d'autre punition que celle de vous déclarer que, dès ce moment, s'il se perd quoi que ce soit de ce que Bansilon a en garde, vous en serez responsables tous trois. » Ils voulurent se recrier, disant que, sur ce pied-là, Bansilon pouvait les perdre à tout moment. « Il est honnête homme, leur dit le capitaine, et vous êtes des coquins qui mériteriez que je vous fisse raser et mettre à la chaîne. » Ces messieurs se retirèrent tout confus, Et ils ne tentèrent jamais depuis de faire pièce à Bansilon, qui demeura le domestique favori de Monsieur de Langeron, dont l'amitié pour lui rejaillit sur nous, les autres quatre réformés qui étions sur la galère. Cette même année 1702, au mois de juillet, nous allâmes avec nos six galères dans le port d'Ostende. De là, nous faisions des courses lorsque la mer était calme, le long des côtes de Blankenburg et de l'écluse en Flandre. Ensuite, nous revenions vers Newport et jusqu'à l'entrée de la Manche. Un jour, nous aperçûmes à la hauteur de Newport, à 4 ou 5 lieues au large, une escadre de 12 navires de guerre hollandais qui étaient arrêtés par un calme tout plat. Nous allâmes les reconnaître, et voyant qu'un de leurs navires était éloigné des autres d'environ 1 lieue, nous allâmes les 6 galères de front pour le canonner. Le capitaine de ce navire était assurément un grand ignorant, car quand il vit que nous allions à lui, comme les galères sont fort basses de bord et qu'elles ne paraissent pas d'un peu loin être fort grosses, ce capitaine disait par bravade à son équipage « Préparons nos palans pour embarquer ces 6 chaloupes sur mon bord !» Son maître chirurgien, qui était un Français réfugié, nommé Labadou, qui connaissait mieux la force des galères que lui, se tuait de lui dire qu'il ne s'y fia pas, que s'il laissait approcher les galères de son bord, elle l'enlèverait par la grande quantité de monde qu'elles avaient. Mais malgré cet avis, le capitaine ne fit aucun devoir, ni de se défendre par son artillerie, ni de s'approcher de l'escadre, ce qu'il aurait pu faire en se faisant remorquer par ses chaloupes. Et pour lors, nous aurions été entre deux feux et contraints de lâcher prise. Enfin, nous approchâmes de son bord à force de rames, en faisant la chamade, qui est une huée que les galériens font pour épouvanter l'ennemi. En effet, c'est une chose épouvantable de voir sur chaque galère 300 hommes, nus comme la main, qui heurtent tous à la fois et secouent leurs chaînes, dont le bruit se confond avec leur hurlement, et fait frémir ceux qui n'ont jamais été à pareille fête. Aussi, l'équipage de ce navire en prit tellement l'épouvante qu'ils se jetèrent tous à corps perdu dans le fond de cale en criant quartier. Si bien que les soldats et les matelots des galères n'eurent aucune peine à monter à l'abordage et à se saisir du navire, qui avait 54 pièces de canon et était percé pour 60. À la vérité, son équipage était trop faible pour résister, n'étant composé que de 180 hommes en tout. Ce navire se nommait la Licorne de Rotterdam. Nous le remorquâmes promptement à la vue des 11 autres navires de l'escadre qui ne pouvaient le suivre faute de vent, et nous l'amenâmes dans le port d'Ostende. Pendant tout le reste de la campagne, nous ne fîmes plus aucune expédition et nous allâmes hiverner dans le port de Dunkerque. L'année 1703 se passa aussi sans que nous fissions rien que d'aller alarmer à coups de canon les côtes d'Angleterre dans la Manche, et cela lorsque le temps le permettait, car il faut du calme pour les galères. Et tous les hivers, nous allions désarmer à Dunkerque. En l'année 1704, nous fûmes dans le port d'Ostende pour y observer une escadre hollandaise qui croisait à la hauteur de ce port. Et lorsqu'il faisait calme, nous allions harceler leur navire à grands coups de canon hors de la portée de leur artillerie, qui ne portait pas à beaucoup près aussi loin que celle des galères. Les 10 navires ne pouvant se remuer à cause du calme, que nous choisissions toujours pour ces sortes d'expéditions, et d'abord qu'il s'élevait un peu de vent, nous nous retirions dans Ostende. Un jour que le vice-amiral allemand croisait avec 5 vaisseaux de guerre hollandais à la hauteur de Blankenburg, il fit rencontre d'un pêcheur de cette côte, auquel il donna quelques ducats afin qu'il allât avec sa barque dans le port d'Ostende pour avertir le commandant des galères qu'il avait fait rencontre de 5 gros navires hollandais revenant des Indes orientales, si pesamment chargés et leurs équipages si malades qu'ils ne pouvaient faire la manœuvre pour gagner quelques ports de Hollande. Ce pêcheur, suivant ses instructions, vint dans le port d'Ostende faire son rapport à notre commandant, l'accompagnant de plusieurs circonstances qui paraissaient plausibles. Il disait, entre autres choses, qu'il avait été à bord de ces navires et y avait fait un bon négoce, leur ayant vendu tout son poisson. On croit facilement ce qu'on souhaite. Notre commandant donna dans le panneau, et à la marée montante, sur les 10 heures du soir, nos 6 galères mirent en mer pour aller chercher ce riche butin. Il faisait un petit vent d'est assez frais. Nous voguâmes toute la nuit, et le matin, à la pointe du jour, nous vîmes nos 5 prétendus vaisseaux indiens, qui, d'abord qu'ils nous aperçurent, firent mine de forcer de voile, et se mirent tous 5 à la file les uns les autres, de sorte que nous ne pouvions bien voir que celui qui faisait l'arrière-garde et qui était l'amiral. Ces navires étaient si bien masqués, leurs ornements de poupe couverts, les sabords de leurs canons fermés, leurs voiles de hune amenées, enfin, ils étaient si bien déguisés en navires marchands qui viennent d'un voyage de long cours qu'ils nous donnèrent le change, et nous les prîmes effectivement pour 5 navires qui venaient des Indes. Tous nos officiers, matelots et soldats ne se sentaient pas de joie dans la ferme espérance de s'enrichir de ce gros butin. Cependant, nous avancions toujours et approchions à vue d'œil de cette flotte qui ne forçait ses voiles que pour mieux faire croire qu'ils avaient peur et pour nous attirer plus en assurance à leur portée, dans le dessein de nous bien recevoir. Car, quoi qu'ils forçassent de voiles, ils trouvaient le moyen de ne pas avancer, à l'aide d'un gros câble en double qu'ils laissaient traîner à la mer ou derrière de leur vaisseau. Nos 6 galères voguèrent donc de toute leur force en front de bataille, et avec une grande confiance que c'étaient les Indiens si pesants et si sales dans leur carène qu'ils ne pouvaient pas avancer. Étant à la portée du canon, nous fîmes une décharge de notre artillerie sur eux. Le vaisseau qui faisait l'arrière-garde nous répondit par un coup d'un petit canon de dessus son château de derrière qui ne portait pas à mi-chemin de nous, ce qui nous encourageait de plus en plus. Nous avancions toujours, en faisant un feu horrible de notre artillerie qu'ils souffrirent constamment. Enfin, nous nous trouvâmes si près de leur navire d'arrière-garde que nous commencions déjà à nous préparer pour l'abordage, la hache d'armes et le sabre à la main, lorsque tout à coup, leur amiral fit un signal. Un continent après, leur avant-garde vira de bord sur nous, et les autres de même, si bien que dans un moment nous fûmes environnés de ces 5 gros navires qui, ayant eu tout le temps de préparer leur artillerie, ouvrirent leurs sabords et firent sur nous un feu épouvantable, qui abattit la plupart de nos mâtures et agrès avec grande tuerie de nos équipages. Pour lors, nous nous aperçûmes que ces prétendus Indiens n'étaient rien moins que de bons et formidables navires de guerre qui nous avaient donné le change par leur stratagème pour nous attirer au-delà du banc de sable qui règne à 2 ou 3 lieues de cette côte et que les gros navires, comme calant trop au fond, ne sauraient passer, pendant que les galères, comme ayant moins de calage, y passent facilement. Enfin, nous voyant tout à coup si maltraités et craignant pis, notre commandant fit le signe de sauve qui peut vers le banc que les ennemis ne pouvaient nous empêcher de gagner. Mais ils nous y escortèrent en se rangeant en bataille, avec un feu si terrible sur nous que nous courûmes le plus grand péril du monde d'être tous coulés à fond. Enfin, la proximité de bancs de sable nous sauva. Nous regagnâmes Ostende à force de rames, tout délabré, ayant eu plus de 250 hommes tués dans ce combat et un grand nombre de blessés. Arrivé à Ostende, le premier soin fut de chercher le pêcheur qui nous avait si bien trompés. Si on l'eût trouvé, on l'aurait pendu dans le moment. Mais il n'avait pas été si sot que de nous attendre. Notre commandant ne fut pas fort loué de la cour, et tout le monde fut bientôt instruit de sa crédulité, mais surtout de son imprudence, à risquer de faire perdre au roi ses 6 galères avec 3000 hommes, car les galères ont 500 hommes chacune. Je dis de son imprudence, car lorsque nous étions à la vue des ennemis, et que, tenant conseil de guerre avec les autres 5 capitaines, il fit prévaloir son opinion, et conclut que c'était des Indiens, l'un des capitaines, nommé Monsieur de Fontette, opina fortement que ce pourrait bien être une tromperie, et qu'il croyait qu'il serait bon de s'en assurer en envoyant notre brigantin, petit vaisseau léger qui nous suivait, pour reconnaître cette flotte. Mais le commandant lui disant que c'était la peur des coups qui le faisait ainsi opiner, Monsieur de Fontette répliqua sans plus hésiter « Allons, messieurs, aux ennemis, on verra si j'ai peur. » Paroles qui nous coûtèrent beaucoup de sang, du moins à la galère du commandant, car, ayant fait le signal de « sauf qui peut », comme je l'ai déjà dit, Monsieur de Fontette, piqué du reproche que le commandant lui avait fait au conseil de guerre, s'obstina à ne pas se retirer du combat, agissant comme s'il n'avait pas vu le signal de retraite. Et les 5 galères s'étant retirées par-dessus le banc, le commandant, voyant cette galère en danger d'être coulée à fond, s'écria « Fontaine veut-il me défier d'être aussi brave que lui ? Allons, dit-il à son commis, fais voguer avant tout aux ennemis. » Le commis, qui sentait apparemment sa mort, se mit à genoux devant lui, le suppliant de n'y point aller, mais le commandant, le pistolet à la main, l'ayant menacé de lui casser la tête s'il ne faisait exécuter ses ordres sur le champ, ce pauvre commis obéit et fit faire avant tout pour aller porter l'ordre à Monsieur de Fontaine de se retirer. Le commandant vint donc se mettre encore une fois au milieu du feu des ennemis et le premier boulet qu'il donna sur cette galère emporta la tête du pauvre commis. Le commandant, étant à portée de se faire entendre de Monsieur de Fontaine, lui cria de se retirer, ce qu'il fit aussitôt et à la faveur du banc de sable échappa ainsi que la commandante à la poursuite des Hollandais.